au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Je suis très heureux de recevoir notre ami le professeur Giovanni Dottoli, vice-président de l'Université de Bari et professeur de langue et littérature française à l'Université de Bari. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce dont nous allons parler avec Giovanni Dottoli est quelque chose d'absolument sublime, car dans très peu de jours, va paraître un de ses derniers livres, parce qu'il publie énormément, c'est d'ailleurs magnifique, ce francophile est étonnant. Il va nous donner Yves Bonnefoy dans la fabrique de la traduction chez Hermann Éditeur. Alors, tous les amoureux, tous les amis de la poésie française et mondiale, tous les amoureux d'Yves Bonnefoy, n'oubliez pas Giovanni Dottoli, Yves Bonnefoy dans la fabrique de la traduction Hermann Éditeur. Et alors, je me permets, avant d'offrir la parole à notre ami Giovanni Dottoli, de lire la table des matières, qui est impressionnante de complexité, d'ouverture, de luminosité, et j'ajouterai aussi, je pense, de transcendance. Alors, le nouveau traducteur, 2, lecture et traduction, 3, traduisibilité, 4, traduction et poétique, 5, le traducteur poète, 6, la fabrique de la traduction, 7, traduire le rythme, 8, l'atelier du traducteur, 9, traduire pour un monde nouveau, et une bibliographie, connaissant Giovanni Dottoli, biographie qui ferait peut-être pâlir d'envie nul autre que William Shakespeare. Cher Giovanni Dottoli, à vous la parole.
Merci, chers collègues et chers amis.
Alors,
je suis vraiment heureux de profiter de cette occasion de pouvoir parler de celui que je considère, et je pense justement, le plus grand poète français vivant, probablement du XXe siècle et, sans aucun doute, de ses premières années du XXIe siècle. Et je essaierai de dire pourquoi. D'un côté, on connaît le Bonnefoy, grand poète, le poète, c'est tout.
Celui qui est publié chez Gallimard.
Voilà, chez Gallimard et ailleurs aussi, et au Mercure de France.
Au Mercure de France.
Mais même ailleurs.
Tout à fait.
Mais on ne connaît pas l'essayiste, c'est un très grand essayiste.
C'est vrai qu'on en parle
sur
peu.
Sur la lignée de Montaigne. On ne connaît pas le critique d'art. Il a écrit des pages sublimes.
Très peu.
Sur Rome baroque. Un livre extraordinaire qui, en France, n'a pas eu vraiment de succès.
Rome baroque, chez quel éditeur ?
En Italie, chez Feltrinelle,
ah
à Milan.
Oui, Feltrinelle.
Et puis, l'éditeur français, ça doit être, je crois, je le trouverai après quelque part.
Des éditeurs,
on peut le préciser
après.
Pour
le préciser.
Alors, c'est un livre où le premier, je pense, il interprète Rome dans les années 1630, donc autour de Bernini et Borromini, comme une ville en mouvement vers la modernité. Et ça, c'est déjà une nouveauté absolue. Le fait qu'il considère le baroque, dans une terre comme la France, où le baroque a été très mal vu, il fallait parler du classicisme.
Très mal noté.
Au XVIIe siècle, jamais de baroque. Lui, il a osé, il y a 50 ans, avant les critiques littéraires, avant les critiques d'art, de parler du baroque sublime de Rome comme emblème d'une Europe en mouvement, qui avait son cœur à Rome à ce moment de nouveauté absolue.
C'est vrai qu'on sent à Rome battre un cœur. Chaque fois que j'y vais, il y a vraiment un cœur qui bat à Rome.
Et alors, je conseille à tous les auditeurs la lecture de ce livre.
Donc, Rome baroque d'Yves Bonnefoy.
Hein, on pourrait en parler un jour.
Oui, c'est important ça, c'est important.
Ainsi que, on ne connaît pas vraiment beaucoup le sujet de mon livre, c'est-à-dire Yves Bonnefoy, traducteur. Tout le monde sait qu'il a traduit Shakespeare. J'ajoute qu'il a traduit tout Shakespeare.
Tout Shakespeare ?
Tout Shakespeare, ce qui est étonnant.
Donc, ah, oui.
Non seulement les sonnets,
ah, oui.
Mais tout le théâtre.
Tout le théâtre.
Il a commencé en 1956.
Donc c'est un angliciste
formidable.
Parfait.
Il connaît, mais derrière cette traduction, il y a plusieurs éléments. Le premier, il dit que sa traduction de Shakespeare est toujours un work in progress. Donc, un travail qui ne sera jamais fini. D'où le titre de mon livre, La Fabrique. On parle de fabrique de Saint-Pierre. C'est, la fabrique, c'est quelque chose que fabrique
en permanence
et ça continue. Et ça rappelle l'idée de l'écriture. L'écriture ne finit jamais. Le poète écrit, il s'écrit, il se corrige, il s'améliore, il fait autre chose, mais toujours c'est le même fleuve qui marche d'une façon limpide avec la même eau qui n'est jamais la même.
On retrouve Shakespeare, les couleurs on retrouve Montaigne.
Chose encore plus étonnante, et ça a été ma grande découverte, ce poète n'est pas seulement français, ou il n'est même pas français. C'est un poète universel et surtout européen, parce qu'il n'a pas traduit seulement Shakespeare, mais il a traduit trois des plus grands poètes italiens. Leopardi, c'est le plus grand poète italien, nous sommes pendant la première moitié du 19e siècle, l'auteur de ce célèbre chant qui s'appelle L'Infinito, l'infini, mais non seulement il l'a traduit, il l'a refait. Moi je parle de Bonnefoy Leopardi.
Il l'a représenté.
Il l'a représenté, il a redonné de la poésie à la poésie.
Du lustre, sa poésie. Du lustre.
C'est plus que le lustre. De la lumière,
la splendeur.
Poétique au-dedans de la lumière de cette poésie de Léopard. Il a traduit Pétrarque. La plupart des sonnets de Pétrarque, Pétrarque a été le plus grand poète européen entre son époque, Moyen-Âge, et les Lumières, et le XVIIIe siècle. Si on voulait être poète, Ronsard, Villon, n'importe qui, on devait lire Pétrarque et s'inspirer de lui.
Qui a été traduit combien de fois en français?
Des dizaines, des centaines, sinon des milliers de fois. J'ai toutes les données dans quelques-uns de mes livres. Alors, il a refait un autre Pétrarque, très adapté à la modernité. C'est-à-dire, on lit le Pétrarque de Bonnefoy et on se dit, il est à côté de moi.
Ah, c'est formidable.
Quand il parle des cheveux de l'or,
oui,
son
oui,
amour,
oui, oui,
hein,
oui.
C'est vraiment sublime.
L'hymne à l'or.
Il a traduit d'autres écrivains anglais, Yeats, Kipling, John Donne. C'est quand même étonnant parce que c'est vraiment une fabrique. Si on sait que Bonnefoy est l'auteur d'une quarantaine de livres, de poèmes, d'essais, etc., tu mets à côté une quarantaine de livres de traduction, c'est vraiment
considérable,
le monde. Et de fait, chez lui, il met ensemble ces deux activités, mais dans deux pièces différentes. Il a une pièce traduction, qu'il appelle l'atelier de la traduction, où il a tous les instruments, ses outils, etc. De l'autre côté, c'est le poète, l'écrivain, l'essayiste. Mais
il n'y a
qu'une petite porte qui sépare ces deux mondes, qui s'entrecroisent toujours, qui sont toujours là.
Est-ce que, juste quelque chose me vient très vite à l'esprit, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un descendant de Montaigne?
Absolument.
C'est la pression que j'ai eue.
Une de mes élèves, Concetta Cavallini, a terminé un livre justement sur ce sujet-là. Yves Bonnefoy, essayiste entre langue et poésie, entre langage et poésie. Et c'est un livre qu'il a beaucoup aimé, il connaît déjà, il l'a lu en manuscrit, en traçant un lien profond entre cet essayiste immense qui lit l'Europe et le monde de son époque sur des bases latines, grecques et méditerranéennes. J'ai dit méditerranéennes parce qu'on ne parle jamais de Montaigne méditerranéenne.
J'ai bien entendu.
Sa culture est tout à fait méditerranéenne.
Ce qu'on ne sait pas toujours.
Entre parenthèses, je dis que sa dernière page est consacrée à Horace, le grand poète latin,
tout à fait.
Très méditerranéen, celui du Carpe Diem et de...
De la joie de vivre,
de
du
la
bonheur,
poétique.
Du bonheur de
du
vivre.
Du bonheur en poésie.
Du bonheur en poésie.
En poésie. Voilà. Et donc, chez Bonnefoy, il y a ce lien de toute la culture française à partir de Montaigne jusqu'à nos jours comme interprétation du monde.
C'est magnifique.
Mais je voudrais revenir à...
Cartographe.
Voilà, cartographe. Voilà, vous employez un mot qui m'est très cher, parce que je dis quelque part que Yves Bonnefoy fait la cartographie du monde par sa poésie. C'est un homme qui ne s'éloigne jamais du monde. On a l'idée que, parfois en le lisant, qu'il est trop énigmatique, trop imaginaire. Au contraire, il vient de Goethe, c'est-à-dire pas de poésie sans réalité. Il faut voir, toucher, regarder, penser le monde pour l'écrire et pour donner de la poésie sublime.
Il est proche de Goethe par cela.
Absolument, pour moi. Absolument.
C'est très intéressant.
Je voudrais revenir à l'idée de traduction qui est le sujet de mon livre. On a toujours considéré le traducteur dans l'histoire comme un auteur de seconde main. Quelqu'un qui faisait un petit travail
au départ,
à partir des autres.
C'est vrai.
Qui copiait un peu. Il renverse les choses. Il dit que le traducteur est un poète, un écrivain à plein titre, comme les autres. Et donc, c'est déjà un point de vue important.
Presque plus doué aussi.
Absolument, c'est ce qu'il dit. Deuxième chose, le traducteur n'est pas celui qui traduit à la lettre. Jamais. Jamais. Le traducteur est un lecteur moderne et interprète du monde de l'écrivain qu'il traduit, qu'il compare au sien et il le refait à lui-même. Ça devient son monde, et donc ce n'est plus le traducteur, mais c'est un traducteur poète.
Donc, imaginatif.
Leopardi devient Bonnefoy, Pétrarque devient Bonnefoy, Shakespeare devient Bonnefoy, et il a présenté dans toutes ses préfaces et postfaces des traductions de Shakespeare de nouvelles interprétations du théâtre de Shakespeare, mais à partir de la traduction. Parce qu'à partir de la traduction, il a découvert, pas les variantes comme un philologue ou un savant académicien, non, derrière les mots de Shakespeare, il y a non seulement le monde de son époque, mais il y a une théorie, une vision du monde et de la poésie.
Ça, c'est impressionnant. Et c'est très impressionnant, comme je sais, cher Giovanni Dottoli, que tu aimes les grands Montaigne, nous allons y venir dans quelques minutes, Goethe, on en a parlé, Leopardi, Pétrarque, et il y a cette espèce de, comme disaient les Allemands, mais j'ose pas prononcer le mot en allemand, parce que mon allemand est épouvantable, vision du monde, une vision du monde qui est impressionnante. On peut parler presque de transfusion.
Transfusion, c'est culture européenne. Un pays qui transfond son monde à côté.
Ouais,
et l'Italie et la France, le long de leurs histoires communes, se sont toujours comportés de cette façon-là. Toujours. Et si nos gouvernements le comprenaient, ils donneraient beaucoup plus à l'Europe.
En quelques éléments de conclusion pour cet entretien, nous en aurons d'autres, certainement sur Yves Bonnefoy, cher Giovanni. D'abord, deux, trois vers, peut-être, d'Yves Bonnefoy, qui te passionnent, t'exaltent, peut-être, ou bien nous ferons ça une prochaine fois, ou quelques formules qui t'attachent terriblement à Yves Bonnefoy, peut-être, quelques formules.
Plus que les vers, parce que là, c'était notre monde, on en parle une autre fois, si vous le voulez bien.
Ah ben oui, c'est vrai que nous sommes dans la traduction. Là.
Voilà, je voudrais insister sur la question traduction, en conclusion.
Oui.
Le dernier chapitre de mon livre s'appelle « Traduire pour un monde nouveau ». Et les derniers mots du livre, c'est une petite phrase, quatre mots, de Bonnefoy. Il dit « La traduction est », et là, c'est lui qui parle, une école de liberté. Et encore, il insiste sur le fait que la traduction aide le monde à retrouver son salut. Au début, je me disais, mais c'est trop prétentieux, qu'est-ce que ça signifie? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé avec lui, et là, un monde s'est ouvert. Il dit que la traduction peut réparer le désastre de Babel. C'est quoi le désastre de Babel? C'est le fait que tout le monde connaît la tour de Babel, les langues, une multitude de langues, les gens ne se comprennent plus, la tour s'écroule,
voilà,
le monde finit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de traduction entre les hommes. Ils ne pouvaient pas se parler, ils ne pouvaient pas dialoguer. Donc la traduction a un rôle fondamental de, cœur du dialogue.
Reconquête des cœurs.
C'est l'Europe vraiment ou le monde. Il faut redonner au gouvernement, au ministère de la culture, de l'éducation, ce pouvoir du livre. Il faut que les livres parlent, se parlent entre eux, que le livre d'un pays passe dans l'autre culture et vice-versa, sans jamais dire le mien plus important que le tien, ma culture. Non, ça n'existe pas. Dans le monde de bonne foi, il n'y a que le salut de l'homme, et l'homme est plus heureux s'il pense poésie.
Parfait.
Il y a de la poésie.
J'ai reçu dans ce deuxième entretien Giovanni Dottoli, qui a évoqué cet admirable poète qui s'appelle Yves Bonnefoy, qui est aussi un admirable traducteur. Vous pouvez parfaitement télécharger cette émission dans notre médiathèque, bien sûr de façon gracieuse. Merci.